11h30 en temps universel, voici l'essentiel des informations sur RFI. 10 jours après le passage meurtrier du cyclone Chido, les secours sont toujours à pied d'œuvre à Mayotte pour retrouver les disparus, rétablir l'eau, l'électricité et les communications. Selon la députée mahoraise Estelle Youssoufa, 90% du département est détruit. Ce lundi est aussi une journée de deuil national. À 11h, heure de Paris, une minute de silence en mémoire des victimes de ce cyclone a été respectée. Sur l'ensemble du territoire français, c'est aussi le cas en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, où une centaine de personnes s'est rassemblée devant l'hôtel de ville. Majida, une commerçante de Saint-Denis, a participé à cette minute de silence pour témoigner de sa tristesse, mais aussi de sa solidarité envers les Mahorais.
C'est une grosse tristesse, il n'y a pas de qualificatif pour qualifier ce drame. C'est des drames qui se répètent tout le temps, un peu partout dans le monde, et on se pose des questions sur ces catastrophes qui arrivent. Ça vient d'où? Comment? Il n'y a que des misérables qui sont en situation de catastrophe. Je suis triste. Mon but ici, c'était la tristesse, la mémoire. On pense à eux. Je leur souhaite beaucoup de force, de courage et qu'ils se redressent. Que la vie continue malgré les malheurs.
Des propos recueillis par Baptiste Coulon. À Mayotte, le bilan des victimes s'élève à 35 morts et 2500 blessés, mais les autorités pensent qu'il serait en réalité beaucoup plus élevé. Et pour discuter des causes de l'ampleur de cette catastrophe, nous recevrons dans moins d'une heure le spécialiste des risques naturels Fahad Idaroussi Timada. Ce sera l'invité international de RFI. Et en France, pas de nouveau gouvernement avant ce soir. François Bayrou veut respecter la journée de deuil national. Il a promis de dévoiler son équipe avant Noël. En coulisses, les tractations achoppent sur l'attribution des ministères de l'économie, de la justice et des affaires étrangères. Le Quai d'Orsay est convoité par son locataire actuel Jean-Noël Barrot et par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Xavier Bertrand, qui est envisagé pour occuper le poste de ministre de la Justice, un ténor du parti de la droite, est envisagé, mais c'est un choix qui fait grincer des dents au Rassemblement national. Il est connu pour être un des plus grands détracteurs de l'extrême droite au sein de sa formation. En Syrie, après la victoire des forces rebelles, l'espoir d'un retour à la maison pour des millions de Syriens. Mais après plus de 10 ans de guerre, un important défi se présente au pays, le retour des enfants nés dans les camps de réfugiés. Prendre la route d'un pays qu'ils n'ont jamais connu, mais qu'ils doivent rejoindre. Reportage dans le camp syrien de Za'atari, en Jordanie, de notre correspondant Mohamed Erami.
Depuis 13 ans, des enfants syriens grandissent dans les camps de réfugiés en Jordanie. Ils n'ont connu que la vie de réfugiés, aucun souvenir de leur pays, juste des récits de leurs parents. Aujourd'hui, avec les changements en Syrie, le retour semble inévitable. Mais pour ces enfants, c'est un dilemme. Un pays inconnu, un quotidien difficile. Zohour Adnan, 10 ans, exprime ce sentiment d'incertitude.
Je suis syrienne et j'aime la Syrie. Mais je ne sais pas du tout où nous allons vivre parce que papa et maman m'ont dit que notre maison à Homs a été détruite. Je ne sais pas non plus comment seront les écoles là-bas.
Les parents ont essayé d'inculquer l'amour de la Syrie à leurs enfants, mais beaucoup d'entre eux ont peur de la réaction de leurs enfants face au retour, comme le raconte Naha, mère de 3 enfants nés à Za'atari.
Au final, la Syrie, c'est notre pays et nous devons y retourner. Mes enfants s'adapteront certainement. C'est vrai que cela prendra beaucoup de temps, mais vivre dans notre patrie, c'est bien mieux que de rester réfugié.
Depuis 2011, plus de 200 000 naissances ont eu lieu parmi les réfugiés syriens en Jordanie. Le plus vieux d'entre eux a aujourd'hui 13 ans.
Mohamed Erami, Amman, RFI.
Plus de 1000 soldats nord-coréens auraient été tués ou blessés depuis leur implication dans la guerre contre l'Ukraine. Ce chiffre provient de l'état-major sud-coréen qui surveille de près le déploiement des troupes de son voisin. Séoul affirme également que la Corée du Nord s'apprête à envoyer de nouveaux soldats et de nouvelles armes à l'armée russe. La Corée du Nord nie toute implication dans le conflit, mais la semaine dernière, l'armée ukrainienne a confirmé avoir croisé le feu avec des soldats nord-coréens dans la région de Koursk en Russie. Une Amérique sans transgenre, c'est ce qu'a promis Donald Trump hier durant un meeting à Phoenix, en Arizona. Devant une foule de jeunes conservateurs, il a dit vouloir mettre un frein à ce qu'il appelle le délire transgenre dès son investiture le 20 janvier. Au programme, des décrets pour interdire les transgenres dans l'armée et les exclure de l'école primaire jusqu'au lycée. Voilà, c'était l'essentiel des informations. Restez à l'antenne dans un instant. Accent d'Europe.